Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix de m'écouter en podcast, on va découvrir une initiative de grande ampleur pour lutter contre la désinformation.
Le site De Facto que nous lançons aujourd'hui, c'est le résultat d'une initiative sans précédent. On va réunir pour la première fois sur une même plateforme des journalistes fact-checkers, des chercheurs qui décryptent le phénomène de la désinformation et des professionnels de l'éducation aux médias qui parcourent écoles et collèges pour expliquer ce qu'est l'information et ce qu'est la désinformation. Un trio qui va s'élargir à d'autres instituts de recherche et experts dans l'éducation aux médias au fil des mois.
De Facto a été lancé mi-janvier. C'est une coalition inédite de journalistes, de chercheurs et de professionnels de l'éducation aux médias. Le projet est porté par Sciences Po, l'AFP, le Clémy et XWiki. Pour connaître son fonctionnement et ses ambitions, j'ai l'honneur d'avoir deux invités de choix à mes côtés. Christine Buagère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice Europe de l'AFP, l'agence France Presse. Dominique Cardon, bonjour.
Bonjour.
Sociologue, directeur du Media Lab de Sciences Po Paris. Dominique Cardon, je vais commencer avec vous. Vous êtes une des références françaises de la pensée liée au numérique. La désinformation, c'est un fléau pour nos sociétés, une menace pour les démocraties, tout simplement pour le vivre ensemble. Une dimension nouvelle de la désinformation est née avec le numérique, il y a un certain temps maintenant. Face à ce grand problème, l'union fait la force, visiblement. À quel point cette coalition nommée De Facto est-elle inédite ?
Elle est inédite. Alors, la désinformation est un des problèmes, des nouveaux mots qui sont liés à la transformation numérique de l'espace public, dont il faut dire tout de suite que la transformation numérique de l'espace public est aussi plein de promesses, de capacités nouvelles, de possibilités expressives pour nos sociétés qui sont formidables.
Donc,
notre idée, c'est que cette transformation, elle a aussi des à côté. Elle a aussi des effets qui sont assez toxiques, qui peuvent être le discours de haine, qui peuvent être la désinformation. Il y en a plusieurs. Ce qui est nouveau dans l'approche qu'on a menée, c'est de se dire, en réalité, on avait des lignes de front qui étaient assez différentes. Il y avait les fact-checkers qui vérifiaient factuellement les informations dont on pouvait vérifier la véracité, d'une certaine manière. On a un pan important de gens qui essayent de développer l'esprit réflexif et critique en faisant de l'éducation aux médias, qui avait ce type d'activité. Et puis les chercheurs, et il faut dire les chercheurs, en gros, depuis 2016, hein, parce que c'est une configuration très particulière, les chercheurs ne connaissaient pas ce mot, n'utilisaient pas le mot de fake news, par exemple. Et puis tout d'un coup, on a le Brexit, Donald Trump, Bolsonaro, et tout d'un coup, on va voir énormément de recherches qui vont se développer avec le terme maladroit, pas très bon, mais de fake news qui vont se développer. Ils faisaient des recherches de leur côté. Ce qui nous semble en réalité, c'est que on voit bien que dans ces transformations propres à l'espace numérique, on a besoin en fait d'allier nos forces. On a besoin en fait de les mélanger. On a besoin d'une certaine manière d'avoir des retours croisés entre l'éducation, le travail des journalistes pour s'assurer de la qualité de l'information, et puis le travail des chercheurs aussi pour comprendre de façon un peu plus globale et plus structurelle comment en réalité c'est l'écosystème des médias, de sa production, mais aussi de la réception et de la circulation de l'information qui est en train de se transformer. Mais comprendre ça, c'est aussi expliquer au nouveau public de l'information comment on vit, comment on navigue, comment on essaye de s'en sortir de l'abondance informationnelle, de l'évaluation de la qualité des informations, et ça, il faut de l'éducation aux médias. Et puis aussi, on y reviendra peut-être, je pense qu'il y a une responsabilité centrale, en réalité, dans les nouveaux flux d'informations, pour les journalistes et les grands médias traditionnels. Hein. On a beaucoup dit avec le numérique, ça y est, les gatekeepers, c'était le mot, hein, les grands médias professionnels ont disparu, ils n'ont plus d'autorité sur leur public parce qu'ils sont concurrencés par des nouveaux venus qui, tout azimut, bombardent d'informations dans tous les sens. En réalité, les grands médias ont toujours une responsabilité centrale. En réalité, la consommation même d'informations reste toujours très très polarisée et attirée par les grands médias. Et du coup, la question du rôle qu'ils jouent dans l'écosystème informationnel est très important. Journalistes, chercheurs, éducateurs, on a vraiment besoin d'associer nos forces. Et c'est, je pense, vraiment le côté très original du projet qu'a lancé la Commission européenne, c'est de dire, face à ces nouveaux défis, il faut créer des hubs nationaux ou des sites nationaux qui vont fabriquer de façon interdisciplinaire ces articulations entre ces trois disciplines pour avoir un regard un peu nouveau sur la désinformation. En réalité, voilà, on a appris, on a vu qu'il y avait des problèmes qui n'étaient pas minces. Et en réalité, peut-être que la chose intéressante, c'est de faire coalition, sans se dire qu'on est en guerre. contre les désinformateurs, hein, mais en essayant de se dire il faut mieux comprendre, il faut mieux informer et il faut mieux éduquer sur ces questions.
Christine Buagiard, vous êtes donc la directrice Europe de l'AFP. L'AFP qui est l'agence France Presse, une agence de référence dans le monde qui a des milliers, peut-être des dizaines de milliers de clients, des médias, à qui l'AFP fournit des dépêches sous forme textuelle, de la photo, de la vidéo, des infographies. L'AFP, ce sont quelques 1500 journalistes de 80 nationalités qui informent en 6 langues. Et parmi ces journalistes-là, eh bien, il y a plus d'une centaine de journalistes qui constituent l'AFP factuel, qui vérifient donc de l'information. Comment ces journalistes-là vont-ils contribuer à la coalition de facto ?
Bah, c'est très simple. On va reprendre en fait une partie du travail qui est fait sur la France pour le publier sur Defacto. On va aussi travailler avec les chercheurs pour approfondir certaines fake news ou certaines tendances qu'on décèle dans les fake news. Parce que quand vous êtes journaliste fact-checker, au jour le jour, donc vous traquez sur Facebook et sur d'autres plateformes tout ce qui peut être faux ou ce qui peut être inexact, parce que c'est pas toujours faux. Parfois, c'est sorti de son contexte. Parfois, c'est mal expliqué. Et du coup, ça induit des idées fausses. Donc, vous faites ce travail en permanence, qui est essentiel. Mais si vous le replacez pas dans un contexte plus global sur la désinformation, si vous travaillez pas avec des chercheurs qui vont vous faire comprendre, vous aider à comprendre d'où ça vient, quelles sont les tendances de fond, quelque part, ce travail perd un peu de sa valeur. Vous avez aussi besoin de vérifier avec les chercheurs l'efficacité de ce que vous faites. Vous voyez les transferts qui baissent, vous voyez les likes qui baissent, mais eux ont des moyens pour arriver à établir plus précisément l'effet que ça a. Et du coup, je pense que c'est en ça, le travail des fact-checkers en France va être considérablement amélioré avec ce partenariat.
Très concrètement, comment ça se passe ? Y a-t-il une messagerie instantanée de type Slack sur laquelle vous échangez ? Vos journalistes échangent comme ça avec les chercheurs ou concrètement ?
Bah, très concrètement, en fait, on a quelqu'un qui s'occupe de ce projet, qui est en lien direct avec nos fact-checkers. On a aussi le responsable du fact-checking qui est en lien direct avec Sciences Po. Tout ce monde parle régulièrement, va déterminer aussi ce qui peut faire sens pour les recherches. Les recherches tant sur le fond, l'impact sur la société, d'où vient cette désinformation, mais aussi comment on peut améliorer les outils pour traquer cette désinformation, parce qu'il y a des choses qui reviennent toujours dans les fake news au niveau sémantique, etc. et qu'on va pouvoir retrouver plus facilement avec le travail des chercheurs. Donc, c'est un dialogue qui va faire qu'on va améliorer à la fois les fact-checks qu'on produit, mais aussi, on va les resituer dans un contexte plus large qui va faire que notre travail aura plus de sens.
Alors, il y a plusieurs rédactions en France qui collaborent à ce projet, de facto. L'AFP, on vient de le dire, Libération, 20 minutes, Radio France ou encore Les Surligneurs. Il contribue donc à ce site defacto-observatoire.fr sur lequel on trouve des fact-checks, donc des vérifications d'informations, des articles très concrets avec des captures d'écran, des vidéos, des photos pour expliquer pourquoi quelque chose est faux ou alors pas tout à fait exact. On trouve aussi sur ce site, Dominique Cardon, des études, des recherches sur les circuits de désinformation. On se rend compte en fait que la désinformation, c'est un écosystème qui est mondial, que les désinformateurs ne bossent pas tout seuls dans leur coin, mais que souvent, eh bien, ils font front parfois dans une dimension véritablement internationale.
Oui, et c'est l'une des raisons. Alors, l'AFP, Christine, sera beaucoup plus précise sur ces questions, mais évidemment, on voit que les circuits sont internationaux. Et le projet de facto, il est aussi des réseaux, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un réseau de plusieurs rédactions françaises qui vont publier des fact-checks. C'est un réseau de plusieurs collectifs autour du CLEMI, qui pilote l'opération, mais de plusieurs collectifs d'éducation aux médias qui vont se mettre en place. Et c'est aussi un réseau de plusieurs types de laboratoires de recherche qui vont se mettre en place sur la question de la recherche.
Alors l'idée, c'est quoi ? C'est de livrer des comptes rendus de rapports pour que les gens comprennent et que les chercheurs réussissent à mettre des mots sur des choses que l'utilisateur lambda des réseaux sociaux ne saisit pas toujours ?
On a besoin d'avoir une vue globale. Donc ce que vous indiquez sur les circuits, qui sont effectivement internationaux, mais ils sont aussi complexes, même à l'intérieur d'un espace linguistique. Hein, et donc, il y a par exemple un résultat qui c'était maintenant devenu très, très solide de la recherche, c'est qu'on s'est beaucoup représenté la désinformation comme des petites marches périphériques, très idéologiques ou bien très extérieures, alors on va dire les Russes, et puis ou bien des robots ou bien des petits groupes qui influencent directement les internautes de façon un peu sur cette métaphore qui ne marche pas pour l'information, hein, épidémiologique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le Covid, on se passe de voisin à voisin et il suffirait qu'on se combatte. En réalité, la désinformation va conquérir des publics, fabriquer des audiences, cristalliser des croyances, parce qu'il y a des acteurs qui ont à forte visibilité, qui vont relayer, souvent en la transformant, toute une série de thèmes qu'ils ont pris dans les marges du web, et puis qu'ils vont consolider comme une sorte d'agenda, et souvent un agenda politique, qui est lié en réalité à des partis d'extrême droite, ou des positions qui sont liées aux positions populistes. Alors bon, évidemment, l'exemple Trump est typique. Hein. C'est Fox News qui a été relayé toute une série de désinformations qui naissaient dans les caves du web autour de Breitbart et des sites de l'alt-right américaine.
Donc avec un savoir-faire d'exploiter justement les plateformes et notamment les biais algorithmiques de ces plateformes.
Alors ça peut exploiter les plateformes, mais ça exploite aussi le fait que la désinformation vient du haut. Elle est relayée par le haut, c'est-à-dire que des acteurs centraux vont se servir d'informations périphériques pour essayer de cliver l'opinion en transformant la désinformation. Et c'est là que c'est compliqué, vous voyez, avec le fact-check, c'est que l'information à la base, elle est erronée et fausse, mais que transformer, puis quand elle arrive sur un plateau d'émission de télé, alors là, je prends le cas de Fox News, mais on sait qu'on a des plateaux de télé français qui font le même genre d'opération. On amène ces informations, et là, du coup, on est devant des bassins d'audience qui sont beaucoup plus forts. Et du coup, on a un circuit qui vient consolider et renforcer toute une série de thématiques qui sont en réalité des thématiques destinées à cliver le débat politique et public, et dans lequel quelque chose qui était factuellement faux est devenu en fait une sorte de thématique politique qui sert à durcir et à fabriquer du clivage politique. Et donc, comprendre les circuits de la désinformation, c'est arriver à voir comment ça remonte. Et du coup, vous voyez mon petit exemple, je ne sais pas si je suis complètement clair, mais mon petit exemple désigne bien le fait qu'il y a une responsabilité des médias du centre. Des médias du centre et surtout des acteurs politiques qui vont intervenir, mais aussi des experts et des scientifiques qui vont intervenir dans ce débat. Et que d'une certaine manière, ce qu'on voudrait aussi comprendre du côté de la recherche dans De Facto, c'est de dire aux gens, bah regardez, il faut prendre la vision globale. Il ne suffit pas de dire tel fait est faux. Il faut regarder qui relaye tel fait, à quel endroit, et puis pourquoi c'est repris de façon régulière. Et pourquoi ceux qui le reprennent ne mentionnent plus l'information, ce qui ne permet plus de leur dire, bah voilà, tu te trompes, c'est faux. Mais en réalité, ils se sont servis d'une sorte d'atmosphère qui a été créée par le bruit informationnel autour d'une multiplication d'informations qui sont douteuses, fausses, un peu erronées, ou tirées par les cheveux, ou bien vraiment falsifiées. Ils ne reproduisent pas les informations, mais ils se servent du bruit et de l'atmosphère pour en faire une sorte de thématique politique et l'amener. Voilà. C'est aussi ça, les circuits de l'information. Et donc, ça, évidemment, ça engage des travaux de recherche qui sont complexes, qui sont vraiment intéressants, et qui à mon avis, sont aussi utiles pour tout le monde, parce qu'ils nous permettent d'être attentifs à la manière dont chacun, dans nos comportements numériques, dans nos choix rédactionnels au sein d'un média, dans le fait que comme utilisateur, je like, je partage ou je commande des informations et que ça a des effets puisque je donne des signaux aux algorithmes, on participe tous à cette machine informationnelle sans vraiment bien la connaître. Voilà. Et donc là, mieux la connaître est aussi une des missions qu'on se donne.
Christine Buagiard, il y a quelques semaines dans l'atelier des médias, le 2 octobre 2021 pour être précis, je recevais la rédactrice en chef centrale de l'AFP, Sophie Huette. Elle expliquait qu'il y a un peu plus de 2 ans, la direction de l'agence avait très clairement affirmé qu'il y avait 2 priorités dans votre approche éditoriale, le réchauffement climatique et le monde numérique. Comment l'AFP s'est-elle organisée sur ce point-là mondial et transversal, le monde numérique, pour développer une expertise et la faire transpirer dans tous ses services?
Précisément, on a créé des pôles, ce qu'on appelle nous des pôles dans notre jargon, mais ce sont des espèces de services qui ne s'occupent que de ces questions-là. Et l'intérêt, enfin, ce qui est nouveau dans ces pôles, c'est qu'ils intègrent maintenant des fact-checkers. C'est-à-dire qu'au sein même de la rédaction, il y a des personnes spécialisées dans cette investigation numérique. Et du coup, grâce à ces 2 compétences, en gros, la compétence traditionnelle du journaliste et la compétence de fact-checker, on arrive à couvrir quelque chose de beaucoup plus vaste qui est non pas seulement les faits qu'on recherche habituellement dans notre travail quotidien de journaliste, mais aussi dire ce qui n'est pas exact et qui circule. Donc on arrive à couvrir les 2 dimensions en fait du spectre de l'information et de la désinformation, avec une équipe qui est soudée, qui comprend des gens venant des deux horizons. Et on l'a fait aussi pour le numérique. Et
j'aimerais qu'on parle maintenant de la dimension financière de ce projet-là. C'est un projet qui est cofinancé par la Commission européenne, mais vous insistez dans la façon de le présenter sur l'indépendance éditoriale totale de ce projet-là. Vous doutez bien que les réseaux de désinformation vont dire « Non, non, mais attendez, ce projet-là, c'est un truc qui est financé par l'Europe. »
Là-dessus, pour nous, c'était vraiment un point non négociable. On ne peut pas écrire sous la dictée de qui que ce soit. C'est dans les statuts de l'AFP, c'est dans les chartes de tous les médias qui sont associés. Donc, on produit ce qu'on estime devoir produire. Le seul engagement qu'on prend vis-à-vis de la Commission européenne, c'est qu'on va déposer sur ce site environ un fact-check par jour. Donc, on prend un engagement quantitatif. On prend aucun engagement sur de quoi ces fact-checks vont parler, comment ils vont être écrits, quels seront nos choix éditoriaux. Là-dessus, le seul engagement qu'on prend, c'est qu'on fera ce que nous, on estime devoir faire. Donc, c'est-à-dire en toute indépendance éditoriale. Et on ne pourrait pas participer à ces projets si ce n'était pas la base absolue de notre collaboration. Et c'est très clair avec la Commission européenne.
Et ça va vous permettre de développer aussi vos activités de fact-checking ? C'est l'idée ?
Bien sûr, c'est l'idée. C'est pas seulement de les développer en nombre, mais surtout aussi de travailler avec des chercheurs qui vont nous permettre d'enrichir ces activités-là en ayant une vision plus large de ce qu'est la désinformation, pas seulement cette nouvelle et fausse. Il y a un certain nombre de choses qu'on sait. Par exemple, on sait que la désinformation voyage dans l'espace, on sait qu'elle voyage dans le temps. Tout ça, on l'a bien observé. On a vu que, par exemple, une fausse nouvelle comme « vous pouvez soigner la Covid avec de l'eau chaude mêlée à du vinaigre », c'est parti d'Espagne, c'est ensuite allé en France, puis ça a rejoint la Grande-Bretagne. Au fur et à mesure que c'était débunké, ça baissait dans un pays, ça allait dans l'autre. Pour revenir finalement au point de départ, l'Espagne. Ça, c'est des choses que nous, on a observées, mais on n'a pas les moyens de les analyser correctement. Et je pense que quand on aura analysé ces phénomènes et leur impact sur les sociétés, on aura enrichi notre travail de fact-check. Il y aura aussi des choses qu'on recherchera parce qu'on sait que les chercheurs auront mis en évidence qu'elles sont importantes. Il y a aussi un autre aspect sur lequel, je pense que c'est notre travail va être très important et enrichi, c'est le fait qu'on veut aider à ce que l'internaute ne soit plus seulement un spectateur. C'est-à-dire qu'on va mettre à sa disposition des tutoriels vidéo, des tutoriels texte, pour lui apprendre un certain nombre de techniques avec lesquelles on travaille pour débunker, pour démystifier la fausse information.
Par exemple, le fait de faire une recherche inversée d'image sur Google Images.
De faire une géolocalisation, de faire des recherches de métadonnées, c'est-à-dire des données qui sont associées à une image. Donc tout ça, on va apprendre aux gens à le faire. C'est finalement assez simple. Et ça a deux effets, je pense, très très importants pour ce projet. Le premier, c'est que ça crédibilise notre travail de journaliste. C'est-à-dire que l'internaute comprend pourquoi on lui dit que cette image est sortie de son contexte et n'est pas ce qu'elle dit qu'elle est, parce qu'on a utilisé telle technique que lui-même peut utiliser. La deuxième chose, c'est qu'on va apprendre aux gens à être sceptiques. Donc, non seulement notre travail est plus crédible, mais eux sont plus sceptiques. Et ils ont des outils pour ne plus l'être. Et donc, on va développer leur esprit critique. Et ça, c'est un point absolument essentiel, je pense, pour notre projet.
Dominique Cardon, développer l'esprit critique, j'entends, mais on se rend compte qu'on est face à des réalités qui sont parfois différentes entre certaines personnes. En tout cas, une perception de la réalité qui est différente. Et face à cela, le débat argumentatif entre ce qui est vrai et ce qui est faux est parfois compliqué. On l'a vu, par exemple, aux États-Unis lors de la dernière campagne présidentielle.
Oui, alors c'est un des grands points de discussion de la recherche qui est très, très intéressant et qui est assez compliqué en réalité. Hein, parce que on pourrait dire les gens croient à des informations fausses parce qu'ils font une erreur de la raison, du raisonnement et de la rationalité. Et dans ces cas-là, l'éducation aux médias, c'est une éducation à la logique, à l'esprit critique. Et parce que les gens seraient trop crédules. C'est une des dimensions, mais c'est qu'une des dimensions du phénomène. J'insiste là-dessus pour dire qu'en réalité, la crédulité est sans doute moins importante dans le partage de désinformations que ne l'est sans doute j'allais dire, l'idéologie, ou le fait qu'on construit son identité sur les réseaux sociaux. Et que parfois, on sait très bien que c'est pas tout à fait vrai, ou que c'est peut-être douteux, ou que c'est peut-être contesté.
On se construit un personnage.
Mais en revanche, on appartient à un camp. On s'exprime parce qu'on est dans un camp, parce qu'on est dans des groupes, et que les algorithmes peuvent renforcer ces effets, mais qu'on est dans des groupes qui sont en fait très très polarisés. Et dans ces groupes très très polarisés, la motivation des personnes ne va pas être une sorte de motivation, alors nous on dit épistémique avec ce mot compliqué, mais qui est lié à la question de la raison et de la mesure de la vérité, mais plus sur les usages sociaux de l'information, parce qu'en réalité elles servent les intérêts qu'on a pour produire son identité, pour être reconnu au sein d'un groupe et pour y participer. Donc vous voyez qu'en fait les choses sont assez emmêlées dans les usages qu'on fait de l'information et des informations qui peuvent être erronées. Et c'est aussi ça qui est voilà, au cœur d'une partie de nos activités.
Aux États-Unis, il y a même une polarisation au sein même des médias. Vous citiez Fox News tout à l'heure, où il y a effectivement une approche du métier et des questions déontologiques qui varient ou qui sont du moins poreuses aux idéologies.
Mais alors voilà, comment se constituent du coup deux mondes comme ça ? C'est pas tellement une sorte de vérification raisonnable des faits, c'est qu'en réalité on a un travail idéologique très profond, qui est toute l'histoire des médias américains depuis 20 ans, depuis les talk radio de Rush Limbaugh dans les années 90, qui ont progressivement été repris, dans lequel l'alt-right américaine a fabriqué toute une série de thèmes idéologiques s'appuyant sur des énoncés ou des faits qui sont parfois complètement falsifiés et qui ont été repris, comme indiqué tout à l'heure, qui ont été repris par le candidat républicain à l'élection présidentielle. Donc en fait, le débat, c'est un débat idéologique dans lequel on commence à faire intervenir deux mondes, deux réalités alternatives, comme le disaient les Trumpistes, qui se superposent et qui ne se parlent plus. Et donc c'est là qu'on retrouve cette responsabilité centrale de l'idée qu'il y a un espace journalistique des professionnels des grands médias d'information. Ils appartiennent à des médias qui ont des lignes éditoriales qui sont différentes, et c'est très important, cette diversité et cette différence. Mais en revanche, ils ont une communauté de règles et de méthodes professionnelles pour vérifier, pour sourcer, et aussi pour se contredire les uns les autres. Donc ils vivent dans le même espace, même s'ils défendent des arguments qui peuvent être des lectures différentes. Il peut y avoir des situations, c'est arrivé aux États-Unis, ça peut arriver dans d'autres contextes, et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à ces questions, dans lesquelles, en fait, des journalistes n'appartiennent plus au même espace professionnel. Et ils décrivent des réalités qu'on ne peut plus superposer les unes aux autres. Et ils défendent un discours qui, évidemment, va fabriquer ce clivage. Pour fabriquer ce clivage, le cœur de l'affaire, et on le voit très bien, je dis ça parce qu'on le voit en France, on voit des acteurs politiques le dire, il faut installer la méfiance. Mais c'est plus que la méfiance, en fait. C'est une hostilité absolue aux institutions et aux médias. C'est-à-dire, quand vous avez des acteurs politiques d'importance qui vous disent « les médias mentent », ils produisent et ils fabriquent la porte d'entrée vers cette idée qu'on va déchirer l'espace commun des méthodes de vérification pour essayer de dire « ils vous mentent parce qu'il y a une réalité qui est ailleurs ». Et cette réalité ailleurs, on va aller la chercher et on va la faire remonter dans des espaces de grande visibilité. On va aller la chercher dans des espaces alternatifs qui vont développer des thèses idéologiques en réalité. Hein, des thèses idéologiques mais s'appuyant sur des énoncés erronés.
Je vous vois acquiescer, Christine Buagier.
Oui, parce que moi je pensais au cœur de notre métier aujourd'hui. Quand on voit par exemple les statistiques qui sont faites chaque année par le Reuters Institute sur la confiance qu'ont les gens dans la presse. On voit par exemple en France, on est passé de 27 à 30% de confiance en les médias. On est très content parce qu'on a gagné 3 points, mais ça veut quand même aussi dire que 70% des Français ne font pas confiance en leurs médias. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je crois que, et c'est ça qu'on essaie, c'est pour ça que de facto, pour nous, c'est un projet tellement important. On veut montrer aux gens comment on travaille, avec quels outils on travaille, selon quels principes on travaille, qu'est-ce que ça veut dire sourcer, qu'est-ce que ça veut dire utiliser tel ou tel logiciel pour prouver que ça, c'est une fausse image. Elle a été mal interprétée, ou elle est fausse, elle est fabriquée, etc. Je pense que c'est essentiel que les gens comprennent ce qu'on fait pour rétablir une forme de confiance dans ce qu'on fait.
Et vous voulez aussi, avec ce projet de facto, aller à la rencontre des gens, créer des événements. Ça, c'est un petit peu nouveau pour l'AFP. Généralement, les agenciers de l'AFP, on ne les voyait pas trop dans les médias, mais j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus, vous aussi, présent dans les médias et même que vous incitez parfois vos journalistes à aller s'exprimer.
Alors, nos journalistes ont souvent participé à des émissions. Vous citiez Sophie tout à l'heure. Et bon, on le fait régulièrement. On participe aussi aux semaines des médias à l'école qui sont organisées par le CLEMI pour expliquer le travail des médias. On participe à un certain nombre d'associations qui font comme ça du travail d'éducation aux médias. Et on l'a toujours fait, on le fait de plus en plus. Bah, parce qu'on voit bien que c'est très important pour que cette confiance dans les médias soit restaurée, que dès le plus jeune âge, on comprenne comment on travaille et on comprenne pourquoi on fait ce métier. Comme disait Dominique, il y a beaucoup de gens qui maintenant ont une image extrêmement noire des médias, mais enfin, la première motivation pour un journaliste de faire ce métier, c'est de dire ce qui se passe, quels sont les faits. Aujourd'hui, il doit aussi dire ce qui ne se passe pas. Et avec la conjonction des deux, on doit arriver à une forme de réalité. Je dirais pas de vérité, ça c'est subjectif, mais de réalité. Et tout ça, ça passe peut-être aussi par une mise en avant un peu plus forte sur ce thème de la désinformation. Parce que vous remarquerez que c'est beaucoup sur le thème de la désinformation, du fact-checking, que l'AFP devient plus visible.
Dominique Cardon, l'éducation aux médias, c'est fondamental. Pour vous, c'est la première chose à faire, la plus essentielle pour combattre les fake news. C'est d'éduquer aux médias, de montrer ce qu'est une source, être attentif à la qualité de la source pour savoir si une information est de qualité.
Mais je crois effectivement que plus que des solutions régulatoires qui poseraient des interdits, etc. On a d'abord besoin d'éducation. Alors, avec le numérique, vous savez, il y a une sorte d'éducation collective. Ça se passe mal, du coup, on comprend, on fait autrement, etc. Mais on a aussi besoin d'avoir des dispositifs plus formels d'éducation. Alors, ce que vient de dire Christine est très important, c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, la production journalistique doit se rendre plus transparente sur la manière dont elle procède pour essayer de rétablir ce point central. Hein, j'insiste beaucoup, tout le problème des fake news, en fait, il est lié à cette crise, à cette hostilité méfiante vis-à-vis des discours des institutions. On a dit les médias, mais ça vaut pour les chercheurs, ça vaut pour les personnels politiques. L'éducation aux médias, du coup, devient complètement centrale. Et la manière dont l'envisage beaucoup le CLEMI et les associations qui sont réunies dans le réseau autour du CLEMI, c'est aussi de dire que l'éducation aux médias, elle doit être active. Et en réalité, on voit bien que c'est ça qui est en demande dans nos sociétés. C'est aussi de participer. Donc, il suffit pas de dire aux gens, c'est faux parce que ça a mal été conçu et les raisonner un petit peu, puis vous verrez que c'est faux. C'est qu'en réalité, c'est de demander aux gens de participer à la vérification. C'est finalement d'aller regarder par eux-mêmes, comme le disent les complotistes. Regarde l'information par toi-même, mais s'informer par soi-même, c'est très bien. C'est très bien si c'est fait dans un cadre raisonné, méthodique et organisé. Et du coup, l'idée que l'éducation aux médias, c'est en fait une sorte de pédagogie active où chacun va vérifier ou grâce aux vidéos qui ont été produites par l'AFP sur le site de Defacto, on peut voir comment on peut vérifier l'origine d'une image, si elle a été trafiquée, où elle a été produite, etc. C'est de se dire, en fait, si tout le monde devenait plus enquêteur, ou en tout cas avait un esprit d'enquêteur plutôt que celle de finalement de se dire aux téléspectateurs un tel a dit ça, puis c'est faux parce que moi je pense que c'est la réalité alternative qui est juste, de se dire le numérique m'offre aujourd'hui des nouvelles possibilités, mais comment en faire un bon usage? Parce qu'évidemment, on a des usages assez sauvages du numérique qui aboutissent à des discours qui s'enflamment, qui sont complètement échevelés et qui partent vraiment dans tous les sens. Mais de se dire, comment garder le meilleur du numérique et donc là, éduquer aux outils, offrir des outils, rendre plus visible et transparente et accessible la manière dont travaillent des professionnels, des journalistes, des chercheurs, quelles bases de données ils utilisent, comment ils se réfèrent à ces bases de données. C'est donner à chacun la possibilité d'être lui-même un enquêteur. Et ça, moi, je pense que si on veut garder les vertus positives, très positives de cet élargissement de l'espace public numérique, c'est pas de refermer la boîte en disant les institutions qui sont si fortement critiquées qu'elles viennent expliquer à un public silencieux, écoutez, c'est nous qui avons raison, les autres ont tort, ça marchera jamais, ça. C'est de dire, le numérique, il nous a offert plein de ressources, on n'en fait pas toujours un très bon usage, essayons collectivement d'en faire un meilleur usage. Et pour ça, il faut réunir les chercheurs, les journalistes et les éducateurs aux médias.
Et ce qu'il faut convaincre, ou en tout cas l'éducation aux médias, ne doit pas concerner que les jeunes. Parce qu'en fait, les études ont souvent montré que ce ne sont pas les jeunes, les ados qui sont les plus poreux, ou ce ne sont pas eux qui diffusent le plus les fausses informations. Ce sont plutôt des gens d'un certain âge,
absolument,
des adultes de 40, 50, 60 ans, qui rediffusent largement des fausses nouvelles et qui n'ont pas cette curiosité, cet esprit critique, ce côté enquêteur dont vous parliez.
Non, absolument. Alors, je suis très content que vous disiez, parce qu'il y a une sorte de culpabilisation sur les jeunes, les naïfs qui font n'importe quoi, qui sont collés à leur téléphone portable. Ils sont assez collés à leur téléphone portable. C'est pas du tout ce que donnent les résultats des études, c'est qu'en fait, c'est des hommes de plus de 60 ans. Voilà, hein, donc vraiment massivement, hein, ceux qui relaient, qui partagent, qui bombardent, etc., avec des informations fausses, sont plutôt des gens assez politisés, hein, aussi, on revient sur le thème de tout à l'heure. Et du coup, c'est aussi important de se dire qu'en fait, cette éducation aux médias, elle n'est pas destinée à des publics particuliers, elle nous concerne tous. Elle nous concerne tous, même quand on a des professionnels très experts. Et un des points sur lequel le Clémy va beaucoup insister dans De Facto et sur lequel ils ont déjà un programme très actif, c'est de s'intéresser aux familles. Parce que les familles, c'est évidemment très central. On sait aussi que tous ces groupes Snapchat, qui sont des groupes familiaux étendus, etc., etc., dans lesquels circulent beaucoup de désinformations, sur lesquels on n'a pas beaucoup de points d'appui et de prise, mais qu'en réalité, toutes ces discussions, hein, l'information, c'est un des sujets de nos conversations ordinaires. Hein, et souvent, le relais, le renforcement des croyances autour d'informations qui sont fausses, c'est parce qu'il est passé dans des relais de collègues, d'amis, de petits groupes, en fait, de discussions. Et donc, de se dire que même dans les conversations de famille, etc., il y a quelqu'un qui arrête la conversation et qui dit « Mais t'es sûr ? On va vérifier, on va regarder. » C'est super important. Voilà. Et donc, c'est aussi un des aspects de l'éducation aux médias qu'on va essayer de mobiliser dans De Facto.
Il y a une question que je voulais vous poser aussi pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est la dimension open source de ce projet. En quoi c'est important que De Facto soit sur une plateforme open source ?
Je vais répondre comme responsable du directeur du Media Lab. Nous, au Media Lab, on développe des outils. On pense que ces outils sont très importants pour le développement des méthodes numériques et évidemment, on pense qu'il est absolument nécessaire qu'elles soient en open source. Ça crée des communautés, ça fabrique des innovations parce que d'autres peuvent nous aider à développer de meilleurs outils à partir des outils qu'on a construits. On les partage. Et cette idée qu'il faut absolument partager, là, on est vraiment dans une tâche qui est une tâche collective. Hein. C'est pour ça qu'on emploie ce terme de coalition. C'est-à-dire on a besoin de se coaliser. Et pour se coaliser, l'open source est évidemment la seule meilleure dispositif pour montrer qu'on est ouvert, mais qu'on est ouvert aussi à ce que d'autres améliorent, enrichissent nos bases de données et surtout nos codes. Alors, je voudrais vraiment insister parce qu'il y a un des débats, par exemple, un peu technique, mais qui montre le point. Les chercheurs, pour qu'on mesure bien la circulation de l'information et la circulation d'informations qui sont douteuses et problématiques, on a besoin de faire des bases de données, en réalité. Donc, on a besoin d'avoir des formats dans lequel on enregistre toute une série d'informations qui ont été fact-checkées, pas fact-checkées, fact-checkées positivement ou négativement, etc. On a besoin de partager ces bases de données, puis on a ensuite besoin d'avoir des outils pour les visualiser, pour représenter le reach, enfin l'audience qu'elles vont conquérir sur telle ou telle plateforme. On a aussi besoin de ne pas regarder une seule plateforme, mais en fait d'être multiplateforme, et ça c'est très très compliqué. Tout ça c'est de l'outillage, c'est de l'infrastructure. Et en réalité, on est vraiment au tout début de ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin, les chercheurs français, mais on le fait avec les journalistes, le Media Lab de l'AFP, puisqu'il y a aussi un Media Lab de l'AFP, a développé plein d'outils pour l'identification des images, etc. Donc on a besoin de partager ces outils. Et là, évidemment, la question d'avoir du code ouvert est évidemment centrale, en fait.
Christine Buagière, une question pour vous liée à la question de ce triptyque, de cette grande coalition. On le rappelle, chercheurs, journalistes, acteurs de l'éducation aux médias, dans ce projet De Facto, il manque les plateformes. Il y a de plus en plus de médias, dont l'AFP, qui ont des partenariats avec certaines plateformes, genre Facebook. C'était important de séparer, à votre avis, ou de ne pas associer les plateformes à ce projet-là, parce que l'endroit où circule la désinformation, bien c'est sur les plateformes.
Je pense que chaque plateforme a ses objectifs propres, donc c'est pas évident. Enfin, je pense qu'elles auraient pas naturellement été vers des projets européens de ce type. D'abord, elles sont américaines pour la plupart d'entre elles et elles ont pas vocation, disons, à participer à des projets de ce type. Mais ça veut pas dire qu'on va pas dialoguer avec elles quand on l'estimera nécessaire. On le fait déjà au quotidien via notre travail de fact-checking. Donc il y a ce dialogue qui existe déjà. Je pense qu'au niveau des chercheurs, rien ne leur interdit aussi de mener des enquêtes auprès des plateformes. D'autant que ce qu'on va découvrir via ce projet et surtout aussi via le réseau européen qu'on est en train de mettre en place, on va certainement faire des découvertes en matière d'impact de la désinformation sur l'ensemble de l'Union européenne, de tendances sur d'où viennent ces éléments de désinformation vraiment importants. Ces éléments-là, on va certainement les partager avec les plateformes qui, individuellement, elles font déjà un certain nombre d'actions contre la désinformation. Donc, on va trouver des choses, via la recherche et via la mise en commun de tout ce que ces sites contre la désinformation en Europe vont produire. Et je pense que, naturellement, un dialogue va s'engager avec les plateformes pour essayer de progresser, en fait, dans la lutte contre la désinformation.
Dominique Cardon, vous pensez aussi qu'il faut associer les plateformes, évidemment ?
Alors, non, moi, oui et non. C'est-à-dire, il ne faut pas les associer au projet, ça, on voit bien. Mais en revanche, il faut bien comprendre le contexte global, en fait, de cette initiative européenne. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un moment fort de la régulation des plateformes qui vont intervenir à travers un texte qui s'appelle le DSA, là, qui est en train d'être discuté.
On en parlait il y a deux semaines avec Roch-Olivier Maistre, le président de
l'ARCOM. Voilà, qui va être au cœur de cette grande manœuvre, en réalité. Et nous, on va se positionner, évidemment, dans cette grande manœuvre. La grande manœuvre, c'est que, même si les plateformes font pas mal d'efforts, hein, depuis justement l'année 2016 évoquée, elles ont beaucoup, beaucoup bougé sur les questions de modération et de désinformation, on l'a vu, mais c'est très insuffisant, et surtout, on a un gros problème avec le manque de transparence sur les données qu'elles ouvrent. Donc, ce que va faire le règlement européen du DSA, c'est de donner à Roch-Olivier Maistre et aux autorités de régulation à l'ARCOM une sorte de bâton beaucoup plus fort pour aller voir les plateformes et leur dire « ouvrez le capot parce qu'on a besoin de vérifier qu'un cahier des charges qu'on aura édicté est bien appliqué ». Et là, évidemment, des acteurs extérieurs, hein, la question de l'indépendance qu'a soulevé Christine est extrêmement importante. Nous, c'est la liberté académique des chercheurs. On travaille sur les sujets qu'on veut, on publie comme on pense qu'il est nécessaire de publier et de dire les choses. Mais on sera évidemment pas du tout indifférent aux enquêtes qui vont pouvoir être conduites, espère-t-on, grâce au DSA, à l'intérieur des données des plateformes pour faire du côté de l'ARCOM, un audit, en fait, pour vérifier, et nous, pour accéder à des données qui nous permettent de comprendre, d'analyser, de suivre et de vérifier aussi, d'une certaine manière, si c'est un peu toujours le problème de la régulation, c'est que comme la boîte est fermée actuellement, on ne sait pas s'ils font exactement ce qu'ils disent qu'ils font. Voilà. Et donc, quand on a les données, on peut vérifier qu'ils font bien ce qu'ils disent, ce qui est important. Et ce qui n'empêche pas non plus d'avoir accès, alors c'est compliqué et difficile, mais les chercheurs le font un peu avec Facebook, à des interfaces produites par Facebook actuellement pour des équipes de recherche dans le monde et d'accéder à des données. Alors, c'est un processus lent, c'est un processus complexe. Il faut respecter aussi des enjeux centraux de données personnelles et de vie privée dans l'accès à ces données. Mais
pour les chercheurs, Facebook est une mine, évidemment. C'est du jamais vu.
Ah ben, c'est une mine d'information. Je vous rappelle, c'est une mine d'information pour Facebook et ses modèles publicitaires.
D'abord. Évidemment.
Mais alors, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont évidemment intéressantes à observer, avec en même temps le fait que les données que Facebook ouvre actuellement aux chercheurs ont été complètement anonymisées et sont bruitées pour qu'on ne refasse jamais d'identification. Et du coup, alors c'est toujours le paradoxe du chercheur, c'est que du coup, elles sont d'un intérêt moyen ou faible, parce que évidemment, la granularité des données n'est pas assez faible pour faire des bonnes observations. Je pense que ça va changer. Je pense que d'ailleurs, les plateformes ont compris qu'elles ont un intérêt maintenant majeur à répondre à ces nouvelles obligations que l'Europe, et là, l'Europe est très innovante hein, dans ce débat sur la régulation, que l'Europe va mettre en place. Et vous voyez le positionnement de Defacto, c'est que ça, c'est une affaire qui concerne le DSA et qui va concerner l'ARCOM pour la France. Et nous, comme espace indépendant de coalition de la société civile entre journalistes et chercheurs, on est évidemment disponible et intéressé à avoir une contribution à partir des données qui pourront nous être fournies, mais sans être sur la commande du gouvernement, hein, ce qui sépare bien un financement institutionnel de l'Europe de tout lien avec le pouvoir exécutif et politique en France, voilà, en France, excusez-moi.
Christine Buagère, on a parlé de Defacto, qui est donc la dimension française de ce projet, mais au final, il a été donné naissance à 8 observatoires des médias et de l'information, couvrant une quinzaine de pays européens. Mm-hmm. C'est quoi la suite pour ce projet ?
Déjà, il faut que l'ensemble de l'Europe soit couverte. Donc, il y a actuellement une nouvelle salve d'appels d'offres qui a été lancée et qui va permettre de couvrir les pays qui ne sont pas encore concernés, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce, une partie de l'Europe centrale, les pays baltes, voilà. Donc tout cela, d'ici probablement septembre de cette année, auront aussi leur observatoire de la désinformation. Et ça va permettre justement d'avoir dans les 27 pays des sites et de faire collaborer tous ces sites ensemble pour à la fois échanger sur comment la désinformation se développe selon les différentes zones de l'Europe, comment les recherches peuvent se coordonner pour qu'on aboutisse aussi à ce que disait Dominique, c'est-à-dire où sont les vrais problèmes et du coup comment les plateformes peuvent les adresser. Enfin, tout ça, ça va nous permettre d'avoir cette vision globale. Donc, il n'y aura aucun pays de l'Union qui ne sera pas couvert par un projet de ce type. Et je dois dire que, par exemple, parmi les pays où il n'y a pas encore un projet, ce qu'on appelle EDMO, c'est-à-dire le European Digital Media Observatory, qui est la maison mère, en quelque sorte, de tous ces projets, il y a en Hongrie un projet un tout petit peu plus petit, moins ambitieux, mais qui vient aussi de commencer et auquel l'AFP participe. On voit que dans ces pays où il y a beaucoup de débats quand même autour de la démocratie, je vais pas faire un dessin, tout le monde a bien compris de quoi on parle, il y a eu une ruée sur le site qui a été créé la semaine dernière avec plus d'une centaine de milliers de connexions en une heure. Donc il y a une vraie soif des citoyens européens pour lire des choses comme ça, pour avoir des sites comme ça. Donc dorénavant, enfin en septembre, tout le monde sera couvert. Je pense que ça sera une excellente chose.
Merci beaucoup Christine Biagère.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'AFP, l'agence France Presse. Et merci Dominique Cardon.
Merci.
Je rappelle que vous êtes sociologue, directeur du Media Lab de Sciences Po Paris. Et j'invite ceux qui nous écoutent à lire votre dernier ouvrage, Culture numérique, paru aux presses de Sciences Po. Une chose avant de se quitter, si vous voulez en savoir plus sur cette initiative De Facto dont on vient longuement de parler, rendez-vous sur defacto-observatoire.fr. À bientôt à tous les deux.
À bientôt.
À bientôt.
On termine cette émission avec Mondoblog Audio. Mondoblog, c'est la plateforme des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, c'est la guinéenne Diretou Diallo qui parle des cheveux crépus. Alors, défriser ou ne pas défriser, telle est la question.
Je suis noire, africaine et j'ai les cheveux crépus. Pendant des années, je les ai défrisés, mais aujourd'hui, je suis une nappie accomplie. J'assume la texture de mes cheveux, que je porte telle quelle sans les dénaturer. L'idée d'arrêter de défriser mes cheveux s'est peu à peu imposée à moi. Quand j'observais toutes les Africaines qui franchissaient le pas, cela me donnait envie. Je ne suis pas censée avoir les cheveux raides, alors pourquoi s'obstiner? Pourquoi les modifier? J'avais aussi lu tellement de choses sur les produits qui lissent les cheveux crépus. Ils seraient toxiques, décapants et que sais-je encore. C'était inquiétant. Mais surtout, je n'étais pas certaine de me plaire face au miroir, de me plaire et de plaire. Serais-je moins jolie, moins attirante avec une coupe afro? Aujourd'hui, ce sont des craintes que j'ai complètement dépassées. Après une longue phase de questionnement, j'ai appris à déconstruire certaines idées. Les cheveux crépus sont aussi beaux que tous les autres. Hélas, nous n'avons pas toutes été sensibilisées plus jeunes à nous en occuper et à reconnaître leur beauté. Au contraire, il fallait défriser, défriser et encore défriser pour rentrer dans le carcan d'une beauté communément admise et reconnue, calquée sur la femme blanche. Maintenant, de plus en plus de femmes noires revendiquent leur afro. Plus qu'un phénomène de mode, c'est un vrai retour aux sources qui s'opère. C'est comme si elle s'était passé le mot. De Cotonou à Abidjan, en passant par Berlin ou Paris, c'est la même histoire. Nous renouons avec un héritage génétique, identitaire et culturel que nous apprenons à aimer et à chérir. Je suis moi-même impressionnée par le temps que je passe désormais à chouchouter mes cheveux. Les moments où je les hydrate à l'aide de masques faits maison sont mes favoris de la semaine. Et je n'ai plus cette vision manichéenne de mes coiffures. Ce n'est pas toujours crépus ou toujours lisse. Il m'arrive de les laisser en afro ou de porter des extensions quand j'ai par exemple envie de changer de tête. L'un n'empêche pas l'autre après tout. Tant que l'objectif en mettant des extensions n'est pas de cacher mes cheveux ou motivé par la honte. C'est ça le plus important. Il faut dire que la lecture d'Americana de la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie et mes recherches sur le mouvement Black Panther et leur afro aux USA ont été décisives dans mon choix de ne plus me défriser. C'est un acte éminemment politique. Moi qui craignais de ne plus être séduisante, J'ai même eu droit à un bonus. L'homme que j'ai épousé me préfère au naturel.
C'était la mondoblogueuse guinéenne Diretou Diallo. Ce mondoblog audio préparé par Camille Deloche est à retrouver, comme tous les précédents, sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission, enregistrée avec Simon Decreuse et réalisée par Yann Bourdelas. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi, avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. Partout où vous le pouvez, commentez et mettez des étoiles à l'Atelier des médias, ça nous permettra d'être plus visibles et donc encore plus écoutés. Écrivez-nous à l'adresse atelier@rfi.fr ou via Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.